stop you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Clémentine Goldsan, Mathilde Serrel, Hugo Cassavetti, sur nos platines diaboliques de l'épée. Why me? Why not? De Liam Gallagher. Je suis africain de Rachida. Il y aura un coup de cœur de Clémentine Goldsan pour Lover de Taylor Swift. Nous ouvrons cette dispute avec L'Épée, un groupe constitué d'Emmanuel Seigné, le duo de The Liminianas et l'Américain Anton Newcombe. Au départ, Lionel et Marie, le combo perpignanais, devaient composer le nouvel album solo d'Emmanuel Seigné, qui devait être produit par Anton Newcombe, leader du groupe The Brian Johnston Massacre. Au final, un groupe est né et un disque aussi. On écoute l'un des morceaux qui s'intitule « Lou ». L'Épée, c'est ce nouveau groupe. Et on va faire un premier tour de table sommaire, rapide, pour avoir un résumé de votre impression, l'impression que vous développerez ensuite. Mathilde Serrel, là, j'ai failli vous appeler Mathilde Seigné. Bon, il n'y a pas de conflit d'intérêt.
Mathilde C'est Serrel, un là. Tarantino discal.
Bon, il va falloir expliquer. Discal comme une hernie.
Comme un disque.
Ah bon.
Tout simplement.
Hugo Cassavetti.
Bah, pardon pour l'anglicisme, mais business as usual, ou presque.
Bon. Clémentine Gonsal.
Bah, le punk est mort.
Le punk est mort.
C'est sibyllin ce soir. Hein.
C'est sibyllin et c'est trop près du micro. Ah. Mathilde Serrel, développée.
Alors, pourquoi c'est un Tarantino discal? Parce que, donc, ça ne vous aura pas échappé, on a des sonorités des années 60, de la fin des années 60, un petit peu là où se situe l'action de Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino. Et on y retrouve donc ces sonorités psyché, rock, mais qui ne sont pas des sonorités de reconstitution, des sonorités d'hommage, des sonorités de cover. Ce sont des sonorités à travers le souvenir des amateurs fans que sont ceux qui donc font ce disque, les Liminianas. À la fois aussi Emmanuel Seigné et non pas Mathilde, merci, et donc Anton Newcombe qui lui est américain et qui a une vision des 60s françaises, notamment comme ça un petit peu depuis son continent et depuis cette découverte de mélomanes qu'il a eu pour Gainsbourg, pour François Zordi, etc. Donc moi, pour moi, c'est un disque qui va vous raconter à travers le souvenir subjectif de ces personnes qui font le disque ce que sont les années 60, avec peut-être même une dimension uchronique, c'est que c'est les personnages de ce disque, en plus, ont connu la New Wave. C'est-à-dire que la pochette de l'épée nous rappelle un petit peu le Unknown Pleasures de Joy Division, et même franchement, et on entend des sonorités New Wave, on entend même un petit peu de Chéri Chéri accéléré de Suicide, qui est un titre que j'adore. Et il me semble que, voilà, ce sont finalement des hippies de la fin des années 60, en tout cas qui s'en souviennent, mais qui joueraient cette musique dans les années 60, tout en ayant vécu déjà ce qui se passera fin 70 avec la New Wave.
Il y a un schéma sur le site de la dispute.
Exactement.
Pour comprendre donc, ce que vient de dire Mathilde Serrel.
Pour moi, de l'anachronisme.
Il y a PowerPoint.
De l'uchronie. Il y a donc toute cette démarche, en fait, sur l'histoire de la musique que peut avoir un Tarantino, sur l'histoire du cinéma. Et je trouve qu'au final, là, on pourrait avoir quelque chose de rétro et, ou alors de vaguement branché, comme font les Moodoïdes ou comme font d'autres Tame Impala et d'autres mouvances psychées chez les jeunes. Et ben là, c'est, entre guillemets, vieux, nous montre qu'ils savent faire aussi frais. Et même presque plus frais.
Le punk est mort. Alors, j'ai pas bien compris le rapport entre le punk et ce disque, mais c'est Clémentine Gonsal qui va nous l'apprendre.
Je trouve que à travers à la fois le visuel de ce que ce groupe nous montre et ce qu'on entend dans le disque, dans ces 39 minutes lancinantes, c'est comme là si la chanson qu'on venait d'écouter durait pendant 39 minutes. Donc pour moi, c'était extrêmement pénible à l'écoute. Je trouve qu'il y a, au contraire de ce que dit Mathilde, une nostalgie pas du tout digérée. Je trouve ça caricaturalement vintage. Je trouve qu'il se complaisent vraiment dans une image. En plus, un esprit de sérieux qu'on associe justement au rock sérieux. Donc, mais pour moi, ça va vraiment du milieu des années 60, effectivement, au début des années 80. Mais sans aucune distance, sans aucune ironie. Et donc, pour moi, ça, c'est un exercice qui vraiment ne dépasse à aucun moment la citation. Donc, j'avais l'impression, c'est comme pour moi si on tournait un western à la Dune du Pilat, si vous voulez. Parce qu'en plus, en fait, il ne trompe personne. C'est-à-dire que Emmanuel Seigné n'est pas Nico, les Liminianas ne sont pas les New York Dolls, et Anton Newcombe, pour tout ce qu'il aurait aimé être, n'est pas Lou Reed. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment un exercice qui ne se transcende jamais lui-même, et qui reste dans la pure citation, qui donne envie d'écouter en fait les originaux. Je ne comprends pas vraiment bien l'intérêt de la raison d'être, en fait, de ce disque ou de ce groupe.
Très bien. On va entendre Hugo Cassavetti pour savoir si lui, il y envoie une de raison d'être à l'épée.
Oui, à l'épée, je ne sais pas. Les Liminianas, oui. Et quand je mes réserves du début, c'est simplement tout ce qu'a dit Mathilde. Je suis d'accord, mais on pouvait le dire de leur premier disque, c'est à peu près leur 6 ou 7e, parce que ça reste un disque des Liminianas. Il se trouve que aujourd'hui, ils ont comme avant, ils avaient des invités, ça passait, il y avait une diversité, ça tâtonnait, c'était de l'amateurisme éclairé. Et là, je trouve qu'ils se sont professionnalisés. Donc on trouve, c'est plutôt un bon disque. Moi, j'aime bien les Liminianas. Le problème, c'est ces groupes qui sont pris en gros dans le pas le piège du purisme, parce qu'on les aime pour ça, et je pourrais citer tout, des Ramones à Dr. Feelgood, des groupes comme ça, on sait très bien qu'au bout de 3-4 disques, même si sur scène c'est toujours assez remarquable, au bout d'un moment, combien de disques? Alors je sais que leur train avance et ils prennent des gens en route. Et on a l'impression que, Mathilde, vous en parlez, c'est comme si, ah bah là, je viens de les découvrir. Tout ce que vous avez décrit, le côté tarantinesque, vous auriez pu le dire pour leur premier album, leur deuxième, leur troisième. Mmh. Arrivé au sixième, quand on en a 6 ou 7 dans sa discothèque, à quoi il sert, à part pour eux, d'exister ou de continuer à séduire, ce qu'ils arrivent à faire. Et je trouve, moi c'est un groupe que j'aime beaucoup sur scène, je vais les voir. Mmh. Mais ce disque, je vois pas, malgré tout, il y a Anton Newcombe qui est quand même, voilà, personnellement, je pense que c'est quand même un peu un des artistes les plus surfaits. Il sort à peu près 4 albums par an.
Surcoté,
il a fait
vous
sa réputation. Surcoté, pardon. Mais de, il a fait cette réputation dans l'opposition avec Dandig, le fameux film où il s'opposait aux Dandy Warhols. Moi, voilà. Quand on parle de Fuzzer, j'ai toujours trouvé qu'il y a quand même au moins une dizaine de chansons des Dandy Warhols, de Wallery Worlds, que j'adore. J'ai encore jamais entendu un bon morceau de Brian Johnston Massacre. Je les ai vus sur scène plusieurs fois. Là, pour le coup, c'est assez ennuyeux, mais on aime bien pour tout ce que ça dégage de fantasmes, de « ouais, il est junkie, il connaît bien tous ces trucs ». Il est là, d'ailleurs, il n'est plus en Amérique, il vit à Berlin. Eux, alors c'est une aubaine, ils se rencontrent, mais j'ai l'impression que ça servira peut-être aux Liminianas de sentir qu'ils évoluent un peu. On voit des petites influences dans le son, dans la... Et pareil, Emmanuel Seigné, elle a déjà fait des guests sur leur disque. Je vois pas tellement la différence. Alors, soit on se dit, c'est super, maintenant il y a une continuité, il y a la même voix sur tous les morceaux, ou on se dit, finalement, c'était plus marrant avant, quand ça variait et tout, et que c'était un peu tâtonnant, mais sympathique. Mais voilà, tout ça pour dire, je trouve que c'est un bon disque. Mais c'est un disque, non pas de trop, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le 8e disque des Ramones, ou le 7e disque du Jesus and Mary Chain? Pas grand-chose, on réécoute les 3 premiers.
Oui, moi je pense que ce disque-là, il va peut-être quand même aussi permettre à pas mal de gens de découvrir Liminianas grâce à ce qui se passe autour au niveau médiatique, de communication, qu'Emmanuel Seigné, c'est quand même aussi une... C'est pas méchant, mais une belle tête de gondole. Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est vous-même, pas
grave. Je parle parfaitement.
Gondole, on
non,
été
mais
gênés.
Je parle en termes de mercatique, bien sûr. Au sens où ça leur permet peut-être de se faire connaître. Moi, contrairement à vous, Clémentine, les 39 minutes me réjouissent. Elles sont pas assez longues, donc je repasse le disque et j'aime justement ce côté lancinant et c'est ce qui me plaît chez les Liminianas. Et je suis d'accord avec Hugo. C'est un album de Liminianas de plus qui est souvent chanté par la même personne. Le morceau que je préfère, c'est celui où Lionel est en duo avec Emmanuel Seigné. On la regardait danser, je ne sais plus quel est le titre.
Oui, on danse avec elle.
On dansait avec elle. Mais parce qu'il chante et du coup, je trouve ça très très bien, même si sur le précédent album de Liminia, c'était le morceau chanté par Bertrand Belin que je préférais. Donc,
qui est aussi sur cet album.
Oui.
Donc c'est vraiment en famille. Bah,
C'est en famille. La famille s'agrandit. Il y a une belle tournée qui sans doute aura plus d'écho que peut-être les concerts des Liminianas qui sont quand même aussi beaucoup sur les routes. Je crois que j'ai jamais écouté Emmanuel Seigné avant cet album. Du coup, pour moi, c'est elle qui est une découverte finalement. Et je trouve qu'elle est une pas mauvaise chanteuse. Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas Nico, ce n'est pas Françoise Hardy, ce n'est pas Brigitte Bardot. C'est plutôt à elle d'ailleurs qu'on pense le plus souvent. Mais bon, il y a une voix qui existe, qui est là, qui n'est pas plus...
complètement absente.
Elle n'est pas plus indigne que beaucoup d'autres chanteuses qu'on pourrait citer si on était moins galants. Je trouve qu'elle a une présence agréable. Mathilde, pas d'accord. Sur tous les morceaux.
Je suis d'accord sur le principe de dire que, effectivement, si ça peut faire découvrir les Liminianas, et si cet univers, donc, uchronique.
Je vois le verre à moitié plein, et Hugo à moitié vide.
Se faisait comme ça une espèce d'aura plus populaire, et aussi de peut-être, voilà, une tournée un petit peu plus vaste, etc. Oui, moi, par exemple, je trouve ça très intéressant. En revanche, finalement, parfois, c'est quand même elle qui gâche le disque, il faut le dire. Parce qu'elle elle pousse le mimétisme un petit peu loin. C'est vrai que moi, c'est pas trop Nico que j'entends. J'entends plutôt une Françoise Hardy, bébé.
Jacqueline Taïeb.
Ouais, il est 7h du matin, mon Shetland Rouge.
Bah oui, mais rendez-nous Jacqueline Taïeb.
Bien sûr, si vous saviez, il y a Jacqueline Taïeb. Je l'ai croisée.
Et justement, elle arrive. Elle est là.
Elle est là. Et elle va rentrer, elle va chanter.
Il n'y a pas si longtemps. Loup. Non, mais en tout cas, elle a poussé le mimétisme un peu loin et cette espèce de. Oui, alors, c'est un mélange de toutes ces icônes-là. Hein. Moi, j'entends un peu la bébé de Contact aussi. Cette espèce de nonchalance un peu bébête, tout ça. Bon, vraiment, il y a des moments, notamment dans les chansons en anglais, ça peut devenir un petit peu pénible.
Oui, la chanson parler chanter.
Exactement. Après, il y a quand même quelque chose que j'aime bien et c'est cette simplicité pop qu'elle a. C'est-à-dire, la chanson Loup qu'on a entendue, qu'une espèce de vague chanson sur la jalousie. Mais c'est vrai que dans la tradition un petit peu textuelle française ou conceptuelle française, là pour le coup, ni texte ni concept, une sorte de pop un petit peu direct avec cette idée qu'on revit des années 60 comme un espace peut-être de liberté, c'est-à-dire de moi ce si je vais au bout de la comparaison avec ce Tarantino, c'est que finalement il renverse, sans vouloir divulgâcher, ce qui s'est passé avec Sharon Tate. Ça ne se passera pas exactement l'assassinat de Sharon Tate par les hippies de la secte de Manson. Ben là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on repart dans les années 60 comme si la gueule de bois n'était pas arrivée. Et je trouve qu'il y a ça dans son chant. Il y a cette petite élan de liberté et cette façon de regarder cette époque en disant, tiens, il y avait quand même des portes qui s'étaient ouvertes. Faudrait se demander où on en est maintenant. Moi, j'entends ça.
Ouais. Ouais, je joue bien l'ingénieux. Hugo Cassavetti.
On parlait juste de mon renversement. Je trouve que c'est là où c'est presque intéressant dans l'évolution, on va dire, assez statique, mais accidente de ce groupe. C'est qu'il y a 5 ans, ce disque aurait, cette association aurait été une aubaine pour les Liminianas pour se faire connaître. Mmh. Au bout de 5 ans, c'est exactement l'inverse. Ce disque va profiter à Emmanuel Seignier qui trouve une sorte de légitimité qu'elle avait pas eue avec Ultra Orange, qui se veut, elle se rêve en rockeuse depuis maintenant 10 ans. Mmh. Et voilà, c'est pas désagréable. C'est,
ouais, j'avais oublié,
vaut mieux être, belle et rebelle que moche et remoche, c'est ça? et Anton Newcombe, bah pour la première fois, il va peut-être gagner, je sais pas, 10 euros de ce qui est déjà plus que ce qu'il gagne en moyenne par an. Donc c'est eux, finalement, ça s'inverse, c'est que le modèle probablement des Liminianas, finalement, ils vont servir leurs héros. Et pourquoi pas? C'est un peu ce qu'avait fait Louise Attaque avec Violent Femme il y a 20 ans. On était plutôt contents pour Violent Femme. Là, les Liminianas n'avaient pas besoin d'eux, donc c'est plutôt eux qui sont déjà dans la position d'être non pas ce groupe de fans qui imitent, qui essaient de courir après leur modèle d'avant. Ils se retrouvent. Mais voilà, juste un petit point sur Lionel Liminianas. Ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il est son idole absolue, je le sais, c'est Nick Cave. Nick Cave est probablement l'artiste qui a le plus, de façon remarquable, évolué en près de 30 ou 40 ans de carrière. Je vois pas l'évolution. Ils sont pris dans quelque chose qui les empêche d'évoluer, parce que s'ils évoluaient, je pense ça nous saoulerait aussi.
Donc
ils sont un peu piégés par ça.
On attend le Nick Cave nouveau la semaine prochaine, les amis, hein. On a hâte. Vous voulez dire un petit mot, Clémentine
Gottschall? Oui, je trouve juste qu'en fait, moi, cette obsession du groupe qui devrait forcément évoluer, j'adhère pas nécessairement. Ouais. Il y a un groupe, à un moment, quand un groupe a trouvé son truc, je trouve pas qu'il y ait nécessairement besoin, ils vont pas se mettre à mettre.
Il faut pas qu'il y ait 40 ans de carrière non plus.
Non, mais bon.
C'est pas gênant.
Je veux dire, ils arrêtent, ou ils se renouvellent. C'est pas ça,
mais
pour
on
moi.
On a pas besoin de 40 disques.
Non, mais c'est juste que l'existence même du groupe et du projet du groupe Liminianas, pour moi, est complètement obscure, quoi. Est-ce qu'on peut pas laisser le passé là où il est? Si c'est pour refaire en moins bien, c'est aussi un tropisme des Français qui ont raté le wagon.
Vous voulez qu'on parle de Liam Gallagher dans 2 minutes?
Ah non, moi je trouve qu'il y a une approche.
D'accord, on aurait pu dire ça, mais là on va débattre.
Liam, il était.
On va s'arrêter là.
Il a fait l'histoire.
Boucheronienne de l'histoire de la musique.
Non, ils apportent.
À la Patrick Boucheron. Il reste des possibles à explorer.
Il reste des possibles.
C'est pas purement rétro, non.
Moi je crois pas non plus. Pas du tout.
Je vous rappelle que John Lennon disait que.
Ah bah, si vous citez John Lennon, je sors de ce studio.
Le vin anglais, c'était comme le rock français.
Et René Char disait à plus tard.
Et John Lennon avait écrit Why me? Why not?
Exactement, on y.
Et moi, je vous dis que l'épée sera en concert le 26 septembre, autant dire dans 2 soirs, à la Boule Noire à Paris, le 28 novembre à Zurich, puis ensuite à Lausanne, Clermont-Ferrand, Rouen, Bruxelles, La Cigale à Paris, le retour le 14 décembre, Lille le 15 décembre, Fézin, Ramonville, Bordeaux, Perpignan, chez les Liminianas. Ça, ce sera le 20 décembre pour cette tournée. On va parler donc de Liam Gallagher, on va parler de Rachida, et vous parlerez, Clémentine, de Taylor Swift.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Il faut que je vous dise quand même, vous qui nous écoutez, que cette dispute musique actuelle, c'est toujours très fatigant pour moi, parce qu'ils sont tellement indisciplinés que ça m'épuise. Bon, allez, suite de cette dispute avec Why Me, Why Not de Liam Gallagher. Pourquoi moi, pourquoi pas, le titre de l'album de la moitié de la fratrie d'Oasis peut facilement devenir un point de départ pour une dispute. Pourquoi lui? Bonne question. On va écouter d'ailleurs le morceau qui donne son titre à l'album.
Why me? Why not? This time I'm coming.
Why me? Why not? C'est le titre de Liam Gallagher que nous écoutions, titre également de son album chez Warner. Premières impressions, premier tour de table, Clémentine Goldsall.
J'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup Liam. Je reste fidèle à Oasis. C'est ça ma première impression.
Mathilde Serrel.
C'est une démonstration par le vide.
Oh, Hugo Cassavetti.
Fait le job pour les nostalgiques d'Oasis, peu exigeants.
Bon, visée, Clémentine.
Oui, je me sens visée, mais je crois que je le suis. Non, je trouve ça... moi, d'abord, il y a une chose qui m'intéresse, et je trouve ça intéressant en rapport avec l'épée et Rachida, dont on va parler tout à l'heure, c'est que ce soir, on va parler en fait de trois albums qui sont trois revisitations de ce qui s'est passé musicalement dans les années 60-70, notamment en Angleterre, et Oasis quand même vraiment est directement arrivé de l'Angleterre des années 60-70. Et du coup, Liam, évidemment, Gallagher se retrouve maintenant tout seul sans son frère Noël. Alors, moi, la séparation d'Oasis, je me disais un peu que Noël était parti, il avait un peu braqué la banque, quoi. C'est-à-dire qu'il est parti avec la substance et il a laissé Liam avec son attitude et cette voix quand même exceptionnelle. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs chanteurs de rock vivant, quoi. Et donc, du coup, quand il est revenu avec BDI, son groupe, j'étais assez dubitative. Puis avec son premier album solo, il y a 2 ans, j'étais pas convaincue. Et là, je trouve qu'avec cet album-là, il revient à quelque chose d'assez simple et d'extrêmement mélodique. Et moi, son attachement à la mélodie me bouleverse parce que je trouve qu'il arrive vraiment à sortir des mélodies géniales et qu'il les chante comme personne. Et avec cette attitude qu'on entend, il a une manière d'articuler les choses qui donnent envie. En fait, on a l'impression qu'il chante en tirant la langue tout le temps.
Ce qui n'est pas pratique.
Ce qui n'est pas pratique, mais ça sonne bien. Il ne faut pas essayer de le faire chez soi. Quoi. Mais je trouve que cette attitude-là, vraiment menton en avant, de l'AD, de Manchester, est hyper, moi, me rend nostalgique. Mais en plus, ce son me manque aujourd'hui. Et je trouve par ailleurs que cet album, qu'il n'a pas du tout composé tout seul, est extrêmement réussi. Je trouve qu'il y a des chansons qui sont vraiment très belles. Celle qu'on vient d'entendre, à mon avis, n'est pas une des meilleures, mais il y a une chanson plus lente, une sorte de ballade qui s'appelle All Right sur l'album, qui est magnifique. Il y en a une autre qui s'appelle Halo. Il y a un piano un peu à la Chuck Berry qui est assez surprenant. Et je pense qu'il fait un peu tout le temps des clins d'œil à son passé, au passé de la musique. Évidemment, il fait aussi des clins d'œil à Oasis. C'est-à-dire qu'il y a une chanson où il dit « You said we'd live forever » et on entend, enfin moi j'entends « Live forever » de Oasis, forcément. Il dit « You » beaucoup dans ses paroles et moi j'ai tout le temps l'impression qu'il s'adresse à son frère Noël qui veut plus lui parler. Ça me touche.
Donc la nostalgie, là, ça fonctionne.
Ouais, ça fonctionne.
L'épée, non. Liam, oui.
Mais l'épée, parce que l'épée, ils empruntent quelque chose auquel ils n'ont pas participé, qu'ils n'ont pas créé. Et Oasis, ils sont la Britpop. Donc pour moi, qu'il se cite lui-même, non, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça, c'est son héritage, il lui appartient.
Mathilde Serrel, sur ce disque de Liam Gallagher.
C'est ton héritage, comme chanterait l'autre. Je m'en vais. Ça me tombe des oreilles, c'est affreux. Je passe de piste en piste, comme on dit, ou de plage en plage, et j'accroche pas du tout. Moi, cette façon de chanter la langue sortie comme un lad ou un mauvais supporter avec un petit blouson sportswear zippé.
Parka.
Ouais, ou parka si vous voulez, ou zippé jusqu'en haut.
C'est la Fashion Week, alors soyons précis.
Moi, j'ai absolument accroché sur aucun des titres. C'est une vraie démonstration par le vide. Je trouve, c'est-à-dire que la mélodie peut-être, enfin moi j'entends à peine, je trouve ne sert rien. Les textes, il n'y en a pas. Et au fond, je ne comprends pas. Je me suis fait une théorie dada, quoi. Je me suis dit, c'est carrément, c'est un disque zéro, quoi. Voilà, je propose un grand zéro où, au fond, il y a rien à retenir, rien à écouter, rien à comprendre. Et c'est peut-être ça, la langue ou carrément le doigt, le majeur qu'on reçoit en pleine figure à l'écoute de ce disque. Et peut-être que dans cette perspective un petit peu performeur, un peu dadaïste, ça pourrait être intéressant. Mais vraiment, j'ai rarement écouté quelque chose aussi
vraiment pour faire
vide.
Une théorie, hein.
Pardon, de substance. Je suis désolée et je m'y suis reprise à 2 fois.
C'est beau, c'est courageux. Hugo Cassavetti.
Ah ouais, je suis un peu partagé parce que j'ai pas la même passion pour Oasis. Je pense que c'est une question de. Mais voilà, qui est un groupe que je.
De génération, qu'ils ont fait. Vous pouvez le dire, mon cher Hugo.
Non, j'ai jamais eu spécialement de sympathie, ni pour l'un, ni pour l'autre, vous avoir montré. Et c'est la seule chose, j'ai un peu de sympathie pour Liam Gallagher, ne serait-ce que pour l'avoir encore entendu l'autre jour. Et je le trouve d'une, non pas d'une candeur, mais derrière son arrogance et tout, une sorte de lucidité et d'honnêteté que je trouve assez, il a un franc-parler et beaucoup moins, qu'il n'a été dans le passé, quoi. Et Noël, c'est autre chose. Il est beaucoup plus perfide. Il est plus malin, plus intelligent et plus talentueux. Alors, il a sa voix. Sa voix, on peut pas lui enlever. Et c'est vrai que c'est une des voix, si on aime ce genre de voix. Après, ce qui me gêne dans ce disque, c'est moi, parce qu'on va parler d'autre chose, votre coup de cœur, de cette musique que j'appelle totalement générique. Et là, il fait de la musique générique de ce qu'ils ont créé autrefois. Mmh. Donc, je vous rejoins. Mais en même temps, ça n'a aucun intérêt. C'est en plus, il a pris des auteurs pour faire encore plus que ce que ça ressemble à des disques. Et sauf que voilà, il a dit ça, je l'ai entendu à la radio dire, voilà, de toute façon, Oasis ne fera plus de disques. Donc, en attendant, je suis le meilleur second choix. Et ça résume tout. Est-ce qu'on a besoin d'un second choix?
Un non-disque.
Donc, il y a une honnêteté dans cette déclaration qui est assez confondante, quoi. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est, bah oui. Et ça plaît effectivement à énormément de gens, mais je suis pas, moi j'aime bien j'adore le rock de Fontaines D.C. et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu, c'est même pas rance quoi, mais c'est de l'énergie en boîte, c'est juste fabriqué, et c'est vrai qu'il y a les mélodies, il y a les trucs, on a l'impression que je les ai entendus 50 fois, c'est générique comme tous ces auteurs où il y a chaque fois je vais pas citer les noms pour vexer, mais toute cette pop actuelle qui va de Katy Perry, où c'est tout écrit par les mêmes personnes, et on a l'impression que on a la même chose pour le rock là. Et il faut pas oublier, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a une voix. Le groupe vraiment fondateur qui les a vraiment les a mis sur la voie à l'époque, c'était les Stone Roses, avec paradoxalement un chanteur incroyable et qui n'avait pas de voix. Et pourtant, rien, ils n'ont jamais rien fait qui arrive à la hauteur de ce premier album des Stone Roses. C'est son rêve, il a même déclaré après le premier, où je vois pas une énorme différence entre le précédent et celui-là. Honnêtement, j'étais même allé le voir jouer. C'est à peu près le même, sauf que là, c'est fait par une équipe d'auteurs qui essaie de reproduire encore mieux ce qu'il faisait au début d'Oasis. Mais ça y est, j'ai oublié ce que je voulais dire.
Il voulait faire quoi par rapport à Stone and Roses? C'est ça que vous étiez en train de dire, Hugo? Mais sinon, j'embraye.
Il est où le fantôme de...
Non, je vais...
Ça reviendra.
Ça reviendra.
Un jour.
C'est notre grand âge, mon cher Hugo, à vous et à moi. La photo de la pochette...
C'est l'élégance pour nous.
La photo de la pochette m'énerve déjà, en fait, si vous voulez. Donc, cette posture-là, j'en peux plus de le voir faire la gueule, ce garçon. C'est insupportable, ça vous énerve pas, Clémentine? Ça vous fait fondre, ça?
Bon, la après tête de Liam Gallagher, non, mais.
Non, le disque,
pas.
Bon, c'est une pure.
Non, moi, si
A
vous voulez tout savoir physiquement,
moi,
c'est pas complètement mon genre, mais non, je peux pas dire qu'il non, m'énerve.
Mais non, mais c'est.
Elle est plus Lionel Liminania, mais elle aime pas sa musique.
Elle aime mieux les barbus. Non, le disque est une purge, c'est vraiment le rock FM actualisé, enfin, de 2019. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que. Si on a aimé Oasis, je trouve que c'est encore pire.
C'est peut-être ça qu'il faut rappeler, c'est que l'enjeu, c'est que Oasis,
j'ai jamais beaucoup aimé. Oui, moi, j'ai jamais beaucoup aimé. Je suis comme Hugo. J'ai trouvé ça plutôt bien, mais ça m'a jamais passionné. Il a retrouvé Papy Hugo. Et je trouve que c'est même pire si on les a aimés de pouvoir écouter un disque comme ça. Je trouve que ça devrait vous faire mal, Clémentine, si vous étiez fan d'Oasis, ou vous étiez toute petite sans doute, ou à peine née. C'est peut-être la nostalgie de votre prime enfance alors qu'il joue.
Non, mais alors qu'il y a une dimension de nostalgie, oui, c'est sûr. Mais je trouve que moi, c'est un son, vraiment, c'est un son qui... sa voix me manque. Je trouve que aujourd'hui.
Je vais lui dire de vous appeler.
Ouais, dites-lui de me passer un coup de fil.
Ouais. Hugo a retrouvé ça.
Ouais, parce que j'ai eu une déclaration de lui qui disait après le premier, que le prochain, il aimerait vraiment faire un disque qui soit à mi-chemin entre les Pistols vraiment... et les Stooges. Il est quand même super loin. Il ne l'a pas fait. Il n'y arrive pas. Il ne peut pas.
Non, il n'a pas fait.
Et pour revenir juste à l'autocitation qui vous touche, on l'accepte de McCartney, Ray Davies, tous ces gens-là, mais à 75 ans, ils commencent à raconter leur jeunesse dans des chansons et ils le font. Là, il est à mi-parcours. Il en est déjà juste à ressasser sa jeunesse dans Oasis.
Ah non, mais lui, il s'est fait larguer. Moi, j'ai toujours
Parce que McCartney ne s'est pas fait larguer, peut-être.
Bah, pas de la même manière quand même.
Un peu, je vous raconterai l'histoire. Oui. La vraie citation,
il y a des enjeux écologiques quand même, il y a du plastique.
La citation
faut les fabriquer
montée
tous ces
par
disques,
Mathilde Serrel, c'est « La prochaine fois, je ferai un disque. Point. » Et non pas un non-disque. Bon, on parlait de « Why me, why not ?» Gardez votre tonus, ma chère Clémentine, car le coup de cœur arrive. Le temps pour moi de vous dire que Liam Gallagher, vous irez le voir, j'imagine, le 21 février au Zénith de Paris.
Mais peut-être bien que
Et peut-être
j'irai.
Qu'avant, vous serez même à Bruxelles le 8 février. Allez savoir.
Peut-être que je vais me faire toute la tournée.
Ben écoutez, vous faites comme vous voulez. C'est l'heure du coup de cœur, et qui dit coup de cœur musique dit deux options. Soit vous en parlez avant, on écoute un extrait après, soit on écoute d'abord un extrait et vous en parlez ensuite. Qu'est-ce que vous choisissez? Option 1, option 2?
Écoutons d'abord.
days did I spend thinking about how you did me wrong, wrong, wrong. Lived in the shade you were throwing till all of my sunshine was gone, gone, gone. And I couldn't get away from ya. Hit my feelings more than Drake, so yeah. Your name on my lips, tongue tied. Free rent living in my mind. But then something happened one magical night. I forgot that you existed. Kill me, but it didn't. And it was so nice, so peaceful and quiet. I forgot that you existed. It isn't love, it isn't hate, it's just indifference. Some popcorn as soon as my rep started going down, down, down. Laughed on the schoolyard as soon as I tripped up and hit the ground, ground, ground. And I would've stuck around for ya. Would've fought the whole town, so ya. Would've been right there front row, even if nobody came to your show. But you showed who you are then one magical night. I forgot that you existed.
Et on danse dans le studio au son de Taylor Swift. Hugo, arrêtez de danser pour laisser Clémentine parler de Lover.
Lover, c'est
le coup de cœur.
Bon, c'est mon coup de cœur. C'est le, j'ai un peu, je pense qu'il faut, en préambule...
Car vous avez toujours 12 ans.
J'ai toujours, d'abord oui, effectivement, j'ai toujours 12 ans. Par ailleurs, je pense que je suis pas, en fait, je m'aperçois que je suis pas si snob. Parfois, je me crois très snob et en même temps, ouais, j'adore Taylor Swift. Donc, je me dis, ça va, je suis quand même pas...
Ouais, mais là, il y a Gallagher, il faut pas être snob.
Ouais, c'est vrai, bah, décidément, ouais, je suis vraiment pas du tout snob. Taylor Swift, c'est son 7e album. Et ça fait maintenant, je dirais que c'est le 4e album. Elle a fait, Taylor Swift, elle a fait quelque chose qui est de l'ordre de la, du record olympique. Elle a réussi ce que nul avant elle avait vraiment réussi. C'est le crossover. C'est-à-dire que, à 16 ans, elle est née en Pennsylvanie. À 16 ans, elle est partie vivre à Nashville pour devenir une star de la country. Elle est devenue une star de la country. Elle a signé sur un énorme label country qui s'appelait Big Machine. Et ensuite, aux alentours de 22-23 ans, elle a réussi le crossover, elle a fait la grande traversée et elle est devenue une star de la pop. Et c'est pas si courant. Mmh. Et moi, en fait, moi j'aime beaucoup la country, par ailleurs, personnellement. Plutôt la vieille country que la country qui se fait aujourd'hui à Nashville. Mais ce qui me touche chez Taylor Swift aujourd'hui, qui est donc une immense star de la pop, cet album est sorti et deux jours après, il était déjà l'album le plus vendu de l'année aux États-Unis. Mmh. C'est que je continue de sentir le squelette des chansons. Contrairement justement aux albums d'Ariana Grande, de Selena Gomez et tout ça, je continue de sentir quelque chose d'organique dans la manière dont les chansons sont construites, dans la manière dont elle les chante aussi. Ensuite, Taylor Swift, sa grande force pour moi, c'est qu'elle est pas cool, d'une part, et qu'elle essaye pas d'être cool. Elle danse pas très bien, elle chante franchement pas hyper bien, c'est pas Beyoncé. Non mais c'est pas Beyoncé, c'est pas Rihanna, elle est pas spectaculairement sexy, elle est spectaculairement rien, mais elle arrive à écrire des chansons qui collent à ma tête en tout cas et à la tête de beaucoup de gens apparemment parce que elle tisse quelque chose qui est de l'ordre à la fois de l'intime et qui en même temps parle à énormément de monde et qui effectivement parle sans doute à la gentille fille de 12 ans en moi. Mais je trouve que dans ce qui se fait de pop aujourd'hui, et effectivement, ensuite les sonorités, ce crossover, elle a pu le faire parce que les sonorités sont devenues extrêmement standardisées. Parce que maintenant, elle a des grosses équipes de producteurs autour d'elle. Et comme vous avez pu l'entendre, d'un point de vue de production, c'est pas, on n'est pas, c'est, ça
révolution.
N'a rien de spécial. Non, voilà. C'est pas Solange Knowles. Donc ça s'écoute vraiment comme on mâcherait un chewing-gum à la fraise. Mais dans la composition, il y a quelque chose, je trouve, qui est extrêmement incarné.
Vous aimez le chewing-gum à la fraise, vous aimez la country, vous aimez avoir 12 ans, écoutez Taylor Swift, c'est le conseil que vous donne Clémentine Goldsall. Le nouvel album s'appelle Lover, il est sorti chez Republic Records.
France Culture, La Dispute, Arne Laporte.
Le dernier disque sur nos platines ce soir, c'est Je suis africain. Un an tout juste après sa mort, c'était en septembre 2018, paraît donc le dernier album de Rachida. L'artiste y avait travaillé durant les deux dernières années de sa vie. C'est pas un album rafistolé post-mortem, c'était vraiment quelque chose qui était prêt. On écoute le morceau Insomnia.
Mais je n'y suis nas, mais je n'y suis nous. Thank you. وسط السماي في قلب الضرب ما شفت السولي
Rachida, l'album s'appelle Je suis africain, il est sorti chez Naïve. Un tour de table sur cet album posthume, Hugo Cassavetti.
Une divine surprise. Voilà.
Mathilde Serrel.
C'est merveilleux, c'est crépusculaire, c'est synthétique.
Et Clémentine Goldsall.
La vie.
La vie, ça ne s'écrit pas pareil, d'Hugo Cassavetti.
Bah oui, mais un peu tout est dit, on va être d'accord. Mais non, mais ce qui est incroyable chez Rachida, qui est quelqu'un qu'on adorait, mais qui, ça faisait au moins 15 ans qu'on allait le voir des concerts un peu pathétiques, des disques pas très réussis, et même qui glissaient un peu vers le n'importe quoi. Et on avait très peur, on nous lance un disque posthume, on se dit, bon, on va l'aimer parce que c'est son dernier disque et tout. Et en plus, le premier titre, l'Africain, c'est vraiment le moins bien.
L'Africain, ouais.
C'est celui qu'on se disait, oulala, on est un peu dans le côté, tralala, je suis africain. On se dit, ça y est, comme celui qui disait juste bonjour, salam alaikum. Et puis, on écoute le disque et on est, on se dit, mais pourquoi il a pas fait ce disque-là avant? Donc, il y a quelque chose d'extrêmement émouvant que lui, il a vraiment travaillé pendant 2 ans, comme s'il a mis toutes ses forces pendant 2 ans pour faire son meilleur disque, quasiment. Je pense, ouais. Il est varié, il est riche, il est émouvant jusque dans son humour. Et donc c'est étonnant d'écouter. Voilà, on a écouté un disque de vivant, mais un peu de mort vivant.
Donc, la garde,
mais j'exagère parce qu'il est vivant. Mais en tout cas, qui n'apporte rien. Après, on peut être touché par ce disque. Là, on a un mort qu'on voyait, qu'on a vu se dégrader et tout, et qui sort un disque qui est pétaradant, quoi, qui est éclatant de santé, de tout ce qu'il a essayé de dire pendant 20-30 ans, et qui n'y arrivait pas simplement parce qu'il était, victime de ses, de lui-même, quoi, c'est toutes ses addictions. Il part, on se dit, bon, allez, ça y est, un disque, ils ont trouvé, ils ont bricolé un disque de Rachid Tala, et c'est son disque qui fait le tour de la question, de tout ce qu'il est, d'où il vient, où il voulait aller, tout ce qu'il incarne, mais je sais pas quoi dire de plus parce que c'est quand même
Mathilde Serrel.
Et apparemment tout le monde est d'accord là. C'est tellement évident, quoi.
Ouais. C'est ça. C'est un petit peu son Black Star, quoi.
Comparons.
Ah, je suis désolée, mais pour moi il y a quelque chose de
joyeux.
Black Star, dernier album de David Bowie.
C'est-à-dire d'arriver en fait à faire un chef-d'œuvre comme ça de clôture. Je trouve ça assez spectaculaire de finir en bouclant la boucle, comme l'a dit Hugo, de faire quelque chose de synthétique. Et ce que je disais aussi en préambule, c'est-à-dire d'arriver à pousser tous les curseurs qu'il avait explorés, que ce soit du rock, du punk, du chat à bim, mais donc même aussi là, il y a de la guitare zaïroise, qui deviendra le Congo et la RDC. Il y a en gros des tentatives de passage, de mutation qu'il a eu pendant toute sa carrière, mais qui faisait finalement par thème dans les disques. Et là, tout cela se réunit et se tisse ensemble avec, en plus, je trouve, une hauteur humoristique, une sorte de chant que je n'avais jamais entendu. Je trouve que le chant algérien de Rachita, quelque part, quand il amène Yaraya, ce grand tube qui va devenir aussi un hymne de la Coupe du Monde, parce que c'est quelqu'un qui a accompagné toutes les grandes mutations de la société française, Rachita, je trouve qu'il n'y a pas encore ce rugueux de l'accent algérien. Et là, je l'entends. Je trouve que c'est presque un instrument à part entière. Son chant en arabe sur ce disque est vraiment émouvant et à mon avis, à un point où il n'était jamais allé. Donc, c'est pour ça que je dis que tous les curseurs avancés sont poussés jusqu'à la perfection en bouclant la boucle. Un petit peu comme Black Star bouclait par rapport à Space Oddity. C'est pour ça que je faisais la comparaison avec David Bowie. Et par ailleurs, j'aime beaucoup la chanson « Striptease ». Parce que il avait déjà évoqué un petit peu sa façon de travailler. Rachita, il parlait de lui comme un receleur. Il était très dans la philosophie de Deleuze aussi. Il a travaillé avec les textes de Jacques Derrida. Ça l'a pas obsédé comme ça de travailler sur le mouvement, sur le recel. Et là, j'aime beaucoup parce que c'est une théorie que j'avais pas encore entendue sur lui-même et qui développe. C'est je suis un stripteaseur, quoi. Et cette façon de dire voilà, moi je suis là avec mon corps moche. À continuer de dévêtir devant les filles, de dévêtir aussi devant vous qui m'écoutez, à tenter quand même de vous faire une danse du ventre avec ce que je peux, ce que je crois. Et moi, ça m'a bouleversée parce que je trouve que ce titre, il a une morgue, il a un swing à la Gainsbourg, il a un humour et un recul sur sa chanson qui en plus fait que le tombeau qu'il se fait n'est pas ennuyeux ni en marbre, quoi. Au contraire, c'est grand ouvert.
Alors, avant de donner la parole à Clémentine, comme Hugo a décidé qu'on était tous d'accord, je vais faire l'avocat du diable. Bon, moi j'ai choisi ce morceau Insomnia parce que justement il est chanté en arabe et que je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour Rachita. Je trouve que le français c'est pas toujours ça. Et la tentative anglaise, alors quand vous dites humour émouvant, c'est émouvant parce que c'est post-mortem ou est-ce que ça vous aurait fait rire quand même avant? Je suis pas sûr, il y a quand même aussi une façon, il y a un contexte. On reçoit cet album-là, vous dites varié, est-ce qu'on peut dire inégal aussi? Ou est-ce que c'est... on peut pas. C'est compliqué. Bon, c'est moi qui prends ça pour moi, donc je dis les choses. Bon, c'est un disque que je trouve inégal. Il y a des morceaux qui peuvent effectivement fonctionner très bien. Insomnia, j'ai choisi à dessein ce morceau-là. Il y a des thématiques qu'on entend dans les paroles qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont pas non plus complètement affirmées, affinées. Une fois que j'ai semé ce petit caillou dans les chaussures qui était bien huilé de Hugo Cassavetti, Clémentine Gonsal.
Non, moi je trouve qu'effectivement, je trouve ça toujours intéressant de l'écoute dans un contexte particulier. Donc évidemment, là, on écoute, c'est comme une missive de l'au-delà. Et donc, c'est émouvant, très sérieux, quoi. C'est très émouvant. Et en même temps, pour moi, dès la fin de la première chanson, j'ai complètement oublié qu'il était mort, quoi. Parce que c'est un disque qui respire complètement.
Faut consulter quand même la Clémentine.
Ça m'inquiète. Je consulte déjà. Non, il n'y a plus rien à faire. Je trouve que c'est un disque. Je trouve que c'est un disque d'une énergie. Ah oui, peut-être qu'il faut que je passe à
revoir le dernier film de Charles Gérard.
Arrêtez-moi, on en parle après la fin de l'émission. Non, je trouve que c'est un disque extrêmement joyeux, où on a l'impression vraiment, moi j'ai eu l'impression tout le temps qu'il me parlait à l'oreille, parce que la production, et c'est comme si tout était enregistré en live, on entend, tout est comme si c'était une petite pièce intimiste où il vous parlait dans l'oreille, et où en plus il y a un dialogue avec les instruments, et c'est un peu ce que vous disiez Mathilde, c'est-à-dire que sa voix effectivement devient un instrument, et les instruments lui répondent, et ça c'est un... Je trouve que c'est une production qui est vraiment intelligente, parce que ça ne fait qu'enrichir le propos. Et par ailleurs, en plus, ça nous rappelle qu'on, moi, je ne comprends pas l'arabe, en tout cas. Mmh. Et ça me rend triste, parce que moi, j'aime beaucoup les chansons en français. J'aime beaucoup sa tentative en anglais. Ça me rappelle Formidable de Aznavour, un petit peu dans le jeu avec l'anglais. Je ne parle pas très bien anglais. Et je me dis que si je comprenais l'arabe, je pense qu'il y a une dimension là du disque à côté de laquelle je passe, quoi. Et qui doit être une dimension assez immense aussi, poétique.
Traduction en ligne.
Peut-être.
Cher Clémentine, je vous le confirme. Hugo Cassavetti.
Oui, c'est-à-dire qu'on ça fait, on s'est toujours dit, je me souviens, c'était 20 ans après 1, 2, 3 Soleil. Rachida était un peu le maillon faible à l'époque. On l'aimait pour ce qu'il était, il était décalé, on avait plus de sympathie pour lui par rapport à l'aide et tout ça, mais les vrais ténors chanteurs, c'était 20 ans après Le Soleil, on voit bien que c'était lui finalement.
Raled est en prison.
Bah oui, voilà, ouais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres? Rien. Donc il était à sa place.
Un immense chanteur.
Et on le découvre. Que...
Oui, mais il est à l'ombre.
Oui, non, mais.
Et Tahar, la première fois, s'avère un très bon, un grand chanteur, je trouve, pour la première fois sur disque.
Ah oui, donc ça y est, on peut rien dire, donc, en fait.
Non, mais parce que c'est
bémol possible.
Moi, les disques posthumes, je suis rarement...
Non, mais les posthumes, c'est presque un accident, parce qu'encore une fois, il était terminé, ce disque.
Est-ce que vous croyez que c'est de faire ce disque qui l'a tué? C'est ça, pour moi, la question. C'est, est-ce qu'il a vraiment jeté ses dernières forces dans ce disque et que ça lui a coûté la vie?
Est-ce que c'était un testament, ou est-ce que c'est la vie s'arrête après qu'il ait fini de travailler? Mathilde Serrel.
Oui, je suis d'accord. On entend qu'il y jette d'une certaine manière ses dernières forces, au sens où j'ai l'impression qu'il reprend aussi des fils qu'il n'avait pas explorés. Il avait rendu hommage à la musique franc-arabe. Là, voilà, il va faire un petit peu à sa manière, je trouve, avec Minouche, alors qu'on en pense mais un petit peu sa musique franc-arabe, en tout cas, ces fils qui étaient restés en suspens, quand je vous le disais, il les a repris, tressés ensemble et donné une sorte de tableau général de ce qu'il aura essayé de faire. Donc pour moi, oui, il s'épuise, parce qu'il fait un petit peu sa tapisserie de Bayeux, quoi. Il va au bout de ce qu'il avait lancé, et sa voix en tant qu'instrument, on disait qu'elle était très belle sur les chants en arabe, mais elle est aussi abîmée, et elle est un peu goguenarde aussi, au coin du bar. On sent que on est en train de fermer, quoi, et on dit monsieur, vous restez, vous partez, que ça aime, il y a quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas se dire qu'on écoute ce disque sans savoir tout ça. Enfin, c'est impossible d'effacer,
sauf quand on s'appelle Clémentine Cossal et qu'après la première chanson, on est oublié.
Vous consultiez l'idée, vous y arrivez.
Donc comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à ne pas avoir, enfin, comment est-ce qu'on se débarrasse de cette tendresse bienveillante?
Non, mais l'homme était
impossible.
Aimable. Enfin,
moi, je veux bien, mais...
Propre, que c'est compliqué de l'écouter comme Clémentine Cossal.
Et puis la surprise est tellement grande aussi d'avoir un album de ce niveau-là.
Cette ambition aussi.
Et de cette variété. Moi, je continue à le dire. Et donc du coup, il y a quand même... quelque chose qui n'est pas effaçable, c'est l'attente qu'on a, qui n'est absolument pas déçue mais transcendée, et en plus la tendresse qu'on a pour la personne humaine et le parcours qu'il a dans la musique française et dans la société française. Je ne vois pas comment on peut se défaire de ça, et peut-être qu'après tout on a le droit de regarder les œuvres aussi comme ça. Enfin, moi je ne connais pas l'œil qui se balade seul, vous voyez, éventuellement ces deux petites pattes.
Nous sommes d'accord.
Ni les oreilles d'ailleurs.
Bon, ben, je vais enlever ma robe d'avocat du diable. Fallait bien que quelqu'un la porte, je suis là pour ça. Je suis africain, c'est le titre de cet album de Rachida, paru chez Naïve. Et avant le jeu de la dispute, Petite annonce, j'ai oublié de dire que Clémentine Gossel sera en concert aux Arènes de Nîmes le 5 juillet, en première partie de Taylor Swift. Je n'ai pas annoncé
son concert.
Aux
Arènes de Lutèce.
Non, aux Arènes de Nîmes. Je vous assure, vous serez là le 5 juillet pour aller voir votre ami Taylor. Bon, j'ai annoncé les concerts des autres, il n'y a pas de raison. Avant de conclure l'émission, donc le jeu de la dispute, David Dana nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier soir, nous donner sa réponse, David.
Pour quel groupe de musique Franck Beauvais a-t-il réalisé un clip? Et la réponse est Cheveux.
Ce soir, des invitations à gagner pour la rétrospective Al Hartley en trois films. Trois films absolument magnifiques qu'il faut aller voir ou revoir. The Unbelievable Truth, Trust Me et Simple Man qui ressortent demain sur grand écran. Vraiment, allez voir ça. La question, David?
Sous quel pseudonyme Al Hartley compose-t-il de la musique?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tondoy, Lucille Como, Boris Pino, David Dana, prise de son ce soir, Audrey Guenil, réalisation Alexandre Fougeron. Demain à 19h, une dispute consacrée aux arts plastiques. Je serai avec Sally Bonne, Corinne Rondeau et Stéphane Coréard. Nous parlerons de Mondrian figuratif au musée Marmottan Monet, du douanier Rousseau à Séraphine et grands maîtres naïfs, c'est au musée Mayol. Il y aura un coup de cœur de Stéphane Coréard pour Ready Made à la galerie 1900-2000. Et puis un journal de la dispute, que fait la télévision aux arts plastiques. Nous parlerons comme point de départ cette série Arte sur le Bauhaus.